Alors, donc, bienvenue à tous pour cette troisième cartographie de l'Atlas de l'Anthropocène. L'Atlas de l'Anthropocène, c'est un atlas auquel je travaille là depuis 3 ans. Et je vais sans doute passer parfois ici, parce qu'en fait, j'arrête pas de bouger et ça va. Voilà, bon. Donc, il y a 4 cartographies à ce jour. J'en ai fait une première sur une expérience qui s'appelle « À la recherche des canards perdus », sur une expérience de la NASA avec des canards en plastique qui ont été jetés dans un glacier du Groenland. La deuxième s'appelle « Les Vikings et les satellites », c'est sur la polémique entre les climato-sceptiques et les réchauffistes concernant la présence des Vikings au Groenland, justement au Moyen-Âge. La troisième, c'est celle-ci. Et la quatrième, donc je ne vais pas en parler parce que je vais en parler tout de suite. Et puis la quatrième, elle est sur le pôle Nord. Voilà. Je vais, comme on est en retard et que je vais parler très vite, je vais parler d'autant plus vite que je voudrais tenir le format d'une heure, ce que je n'ai jamais réussi à faire avec cette conférence. Mais je vais essayer, c'est le défi que je me donne ce soir. Je vais le faire en une heure. Je n'étais pas loin, hein, j'étais à 1h03 l'autre fois. Hein, donc, voilà. Mais ça oblige à parler très vite. Voilà, je commence tout de suite pour ne pas perdre de temps. Le moustique que vous voyez derrière moi s'appelle Aedes albopictus, plus communément appelé donc le moustique tigre, en raison de ses rayures qui parcourent son corps et ses pattes. Il a aussi une ligne longitudinale blanche qui traverse son thorax. Donc voilà, comme un tigre, hein, ou comme un zèbre. Enfin, en tout cas, il est complètement zébré. Voilà. Donc, il fait partie de la famille des diptères, c'est-à-dire qu'il a 2 ailes, et plus généralement de la famille, plus précisément, pardon, de la famille des Culicidae, c'est-à-dire des moustiques, tout simplement. Donc, il y en a 3500 comme lui dans le monde. Il y a 3500 moustiques repérés aujourd'hui. En fait, on pense qu'il y en a beaucoup plus. On pense qu'il y en a à peu près 10 000, mais les autres, on ne les connaît pas. Ils sont dans des endroits trop reculés, enfin, ou trop loin de l'humanité. Et les hommes ne s'y sont pas encore intéressés. Ils n'ont pas eu le temps, tout simplement, parce qu'ils y sont... Ils ne sont pas confrontés à ce moustique, donc à certains moustiques, donc ils les ont pas, qui sont dans des endroits très reculés, dans des forêts, ils ne les ont pas du tout observés encore. En tous les cas, celui-ci, on a commencé à l'observer, on a d'autant plus commencé à l'observer qu'il intéresse particulièrement l'humanité. Alors, il serait apparu il y a quelques centaines de milliers d'années, sans doute, peut-être 1 million d'années, dans les forêts d'Asie tropicale, dans les forêts humides, où les femelles de ce moustique pondaient des œufs dans des toutes petites collections d'eau. C'est la particularité de ce moustique par rapport aux autres moustiques qui peuvent, ça dépend des moustiques, hein, il y en a certains qui pondent dans des grandes surfaces d'eau, certains dans des étangs, dans des mares. Celui-ci, c'est dans des toutes petites collections d'eau, dans une coquille d'escargot, dans une feuille retournée, dans un creux d'arbre, etc. Donc la femelle pond ses œufs. Donc c'est la femelle qui pond, hein, bien sûr. Elle pond ses œufs à la surface de l'eau, au contact de la paroi qui retient l'eau. L'œuf est sur l'eau, comme ceci, et il attend, il est collé à la paroi, et il attend qu'il pleuve, le niveau de l'eau va augmenter, l'œuf va éclore. C'est le niveau de l'eau qui augmente, c'est la mise en eau de l'œuf qui permet l'éclosion de l'œuf et la naissance d'une larve, et puis ensuite d'une nymphe, et puis ensuite, un peu plus tard, d'un moustique. Voilà. Et donc, pendant des centaines de milliers d'années, ce moustique a piqué dans cette forêt des singes d'Asie du Sud-Est, dont voici un exemple, des macaques. Donc, les femelles piquent, pourquoi ? Parce qu'elles veulent avoir du sang, parce que dans le sang, il y a des protéines, et c'est les protéines du sang qui leur permettent de pondre des œufs. Hein, sans ces protéines, la femelle ne peut pas pondre. Ce qui fait que la piqûre de tous les moustiques, hein, la piqûre n'est jamais un acte de... Vous voyez ce que je veux dire ? Qui vise à nuire. C'est, pour le moustique, c'est juste la seule possibilité qu'il a de se perpétuer en tant qu'espèce. Donc, il faut qu'il pique. C'est la seule possibilité pour lui. Hein. Voilà. Et puis, à un moment donné... Alors, quand est-ce que ça s'est fait ? On ne sait pas trop. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. À un moment donné, il s'est mis à piquer des hommes. Alors, sans doute qu'au paléolithique, il y a un homme qui est rentré dans la forêt à un moment donné... et puis le moustique s'est trompé. Au lieu de piquer le singe, il a piqué l'homme. Ou bien il y a eu au néolithique un premier village qui s'est constitué tout près de la forêt ou dans une clairière dans la forêt où les agriculteurs commençaient à défricher. Puis là, les moustiques étaient juste à côté. Puis ils ont vu des hommes, ils ont commencé à les piquer. Et à partir du moment où ce moustique a commencé à piquer des hommes, il est resté avec les hommes. Il a préféré piquer les hommes que les singes. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que les hommes vivent en densité beaucoup plus importante sur un territoire que les singes. Donc, il y a beaucoup plus d'individus potentiellement piquables pour le moustique. Donc, beaucoup plus de ce que disent les entomologistes, beaucoup plus de repas sanguins qui leur permettent d'avoir du sang et de pondre ensuite des œufs. Et puis aussi parce que les hommes ont fabriqué dès le néolithique, peut-être même au paléolithique déjà, ont fabriqué, c'est même les premières fabrications des hommes presque, des récipients pour mettre de l'eau, pour mettre des graines, enfin des bols, des tasses, etc. Et puis parfois ces récipients, donc ce sont des tout petits récipients, hein, parfois ils les oublient dehors, et puis il pleut à l'intérieur, donc il y a de l'eau qui stagne, c'est une petite collection d'eau, et c'est génial pour ce moustique qui va pouvoir pondre dans la collection d'eau. Ce qui fait que c'est un moustique particulièrement adapté à l'homme qui vit dans un état groupé, parce que ce moustique-là, en tous les cas, va trouver près de l'homme, à la fois le repas sanguin, c'est-à-dire la piqûre possible, et puis le gîte pour pouvoir pondre. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de lui depuis tout à l'heure ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est en train de poser un immense problème à l'humanité et un formidable défi. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un vecteur. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur ? Donc, le vecteur, ça vient du mot latin, hein, vector, ça veut dire conducteur de chariot. Donc, ce n'est pas du tout, bien sûr, un conducteur de chariot. Hein. Voici les acceptations du mot vecteur avec le temps. Donc, c'est première définition du mot vecteur, c'est segment orienté comportant une origine et une extrémité, c'est en mathématiques. Hein. C'est la fameuse relation de Schall. Vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC, etc. Bon, donc c'est pas ça. Un aéronef, navire ou engin capable de transporter une charge nucléaire. Bon, voilà, donc Albopictus. Alors, vous me verrez, parce que Aedes albopictus, c'est très très long à dire, donc je ne dirai pas Aedes albopictus pendant toute la conférence, parce que c'était beaucoup trop long, puis je voudrais gagner du temps. Moustique tigre, je trouve ça très péjoratif. Donc très souvent, je vais dire albopictus. Voilà. Ou parfois, même pour aller vraiment très très vite, je vais dire albo tout de suite. Donc, quand je dis Albo, on sait que c'est de lui dont je parle. Donc, c'est pas bien sûr, il ne peut pas non plus transporter une charge nucléaire. En fait, donc, c'est bien un acteur qui assure la transmission biologique active d'un agent pathogène, c'est-à-dire virus, bactéries, parasites, d'un vertébré à un autre vertébré. Et comment se fait cette transmission ? Bien, elle se fait, bien sûr, par la piqûre. Alors, j'ai travaillé avec un laboratoire pour en menant ce travail avec un laboratoire de sciences qui est à Montpellier, qui s'appelle l'Entente interdépartementale pour la démoustication, l'EID. Et voici un petit film qu'ils m'ont donné, où on voit donc une femelle Aedes albopictus piquer un individu. Donc là, elle a sa trompe qui va jusqu'au vaisseau sanguin. Et vous voyez ici son abdomen qui est en train de se remplir. Enfin, on le voit aussi ici, hein, de la même manière. Alors c'est le problème du sang, c'est que notre sang, il a tendance à coaguler, bien sûr. Et, or, c'est un problème pour le moustique si le sang coagule, parce que là, elle sort sa trompe, là. Voilà. Donc là, elle est lourde, elle est pleine, et elle va aller se reposer parce que, pour préparer ses œufs. Ça va prendre 48 heures à peu près. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le sang, comme il coagule, s'il coagule, il va boucher la trompe. Donc, elle ne pourra pas prendre de sang. Donc, pour éviter que le sang coagule, le moustique envoie, au moment de la piqûre, juste avant la piqûre, enfin dans la piqûre, il envoie un anticoagulant qui est dans sa salive. C'est ce qui fait chez nous le bouton, et c'est ce qui fait que ça gratte, et ce qui va lui permettre de récupérer le sang sans que le sang coagule. Voilà. Alors, c'est un moment très délicat pour le moustique, la piqûre, pour trois raisons. La première, c'est que c'est un des rares moments où il est à l'arrêt, et que donc, il peut se faire tuer à ce moment-là. La deuxième raison, c'est que la température en général de la personne sucée, du sang de la personne sucée, est bien supérieure à la température interne du moustique. Et donc, il y a un risque de stress hyperthermique. C'est une des scientifiques de l'IRD qui ont montré ça. C'est une caméra, c'est une photographie qui a été prise par une caméra infrarouge où on voit le coup de chaud que se prend le moustique au moment de la piqûre. Ce qu'on appelle en fait un choc hyperthermique en fait, et il n'arrive à résister à ce choc hyperthermique que parce que par un phénomène incroyable de décompensation thermique, c'est-à-dire qu'il évacue, vous le voyez, c'est la tache bleue, il évacue une tache d'urine mélangée à du sang par son anus, qui lui permet de faire une régulation de la température interne et donc de résister à cette température élevée qui est apportée par le fait qu'il est en train d'aspirer du sang. Et puis troisième écueil, c'est qu'il risque d'attraper à ce moment-là un virus, une bactérie qui serait dans le sang de la personne sucée. Et c'est ce qui se passe avec ce moustique, il peut attraper deux types de virus. Il peut attraper la dengue, le virus de la dengue, dont voici une image au microscope électronique. Alors ça c'est... Alors attention, parce que la dengue, il y a quatre virus en fait. Parce que la dengue, c'est une maladie qu'on a décrite au XVIIe siècle à partir de symptômes, la fièvre, etc. Et puis on n'avait pas encore trouvé les virus, enfin le virus de la dengue. Et puis au XIXe siècle, on s'est aperçu que derrière ce qu'on pensait être une seule maladie, il y avait quatre virus différents. Donc, en fait, quatre maladies différentes. Mais comme c'est les mêmes symptômes, c'était compliqué de leur donner quatre noms différents alors que c'est exactement la même chose au niveau des symptômes. Donc on a juste, comme il y a quatre virus, on a juste numéroté les virus. Donc virus 1, il y a la dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Quoi. Donc ça, c'est la dengue 3. Voilà. Et puis donc le virus du chikungunya qu'il est capable de prendre en charge. Donc si la personne sucée a le chikungunya, la femelle albopictus attrape le chikungunya, bien sûr. Hein. Et elle tombe malade, elle aussi, hein, du chikungunya. Elle attrape le chikungunya, tout simplement. Hein. Ça, c'est une étude du CNRS qui a montré qu'en fait, c'est une étude toute récente, une femelle qui attrape le chikungunya, parce que les hommes peuvent pas, enfin les hommes, les mâles ne peuvent pas l'attraper, parce qu'eux, ils piquent pas. Elle a une espérance de vie de 8 jours inférieure à une femelle qui n'a pas attrapé le chikungunya. 8 jours de moins de vie. Hein, sur une espérance de vie totale, à peu près, ça vit 30 jours, un moustique comme ceci. Donc 8 jours de moins sur 30 jours, c'est 25% de vie en moins. Non, mais si on devait, voilà, si on devait comparer avec nos espérances de vie à nous, 25% de vie en moins, c'est pas rien, hein, c'est aux alentours entre 20 et 30 ans. Hein, 20 ans. Ça dépend des sexes et tout ça. Donc voilà, donc elle attrape le chikungunya. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle va se reposer, elle est pleine, elle va se reposer pour préparer ses œufs, puis 48 heures après, elle va les pondre. Et puis une fois qu'elle a pondu ses œufs, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller piquer quelqu'un d'autre. Elle n'a pas besoin d'avoir un rapport sexuel pour aller pondre à nouveau des œufs avant de piquer, tout simplement parce qu'elle a eu un premier rapport sexuel initial, en fait, qui lui a donné suffisamment de sperme, et elle a un sac à sperme dans son abdomen, et elle l'utilise au fur et à mesure de ses besoins, au fur et à mesure de ses pontes. Tous les moustiques font ça, hein. Enfin, celui-ci, celui-ci, en fait, on s'est aperçu, et ça, c'est une étude qui, en fait, les résultats sont sortis au mois de mai, on s'est aperçu que la femelle de celui-ci pouvait avoir quand même plusieurs rapports sexuels. Ce qui fait que, bon, tous les spermes se mélangent dans le sac à sperme. Ce qui fait que quand elle pond, elle ne sait pas de qui le père, etc. Enfin, si jamais elle devait... voilà. En tous les cas, voilà, donc elle va piquer une seconde personne. Et c'est comme ça que le virus se transmet. Alors on pourrait penser, mais pourquoi il se transmettrait ? Puisqu'elle va piquer, donc elle va aspirer du sang, donc elle ne va rien envoyer. Sauf que pendant qu'elle avait le chikungunya en elle, qu'est-ce qu'il a fait le chikungunya ? Le virus, il a traversé la paroi stomacale, il est allé se loger dans les glandes salivaires, et le virus, il est re-inoculé au moment où elle envoie la salive comme anesthésiant pour que le sang ne coagule pas. Et c'est comme ça que le virus se transmet de personne à personne. Donc c'est un slack, c'est un vecteur, c'est-à-dire que ce moustique attrape des virus dont il n'est absolument pas responsable, c'est pas lui qui les fabrique, etc., mais il les transporte de personne à personne. C'est en cela qu'il est un vecteur et c'est en cela qu'il est évidemment potentiellement dangereux, et donc c'est pour cela que l'humanité s'intéresse particulièrement à lui. Deuxième raison qui fait qu'il pose un véritable problème, c'est qu'il se déterritorialise tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti de l'Asie tropicale où il était, dans les forêts d'Asie tropicale, pour être aujourd'hui présent dans plus de 80 pays dans le monde. Voici sa carte de localisation. Donc attention, hein, toujours aux cartes, toujours se méfier. Là, par exemple, les États-Unis ont été coloriés en rouge parce que les États-Unis ont été atteints, hein, par Albopictus. Mais donc on a colorié aussi en rouge l'Alaska, puisque ça fait partie des États-Unis, mais il n'est pas du tout en Alaska. Hein. Il est au sud des États-Unis. De même, la France, toute la France a été coloriée en rouge, mais il n'est pas du tout dans toute la France, hein, il n'est qu'au sud de la France, c'est-à-dire sur la Côte d'Azur. Et puis là, il est en train de remonter donc, dans le sillon séquano-rhodanien, là, il a dépassé Lyon, il est arrivé près de Mâcon, là, cet été. Et puis là, il n'est pas très loin, il a dépassé Toulouse, Montauban, il arrive près de Bordeaux, il y sera l'année prochaine. Voilà. Alors pourquoi je dis qu'il se déterritorialise et que ce n'est pas seulement une expansion spatiale ? Pourquoi j'emploie ce terme ? Eh bien, je l'emploie au sens où l'on définit... donc c'est un mot qui a été inventé, hein, par Gilles Deleuze et Félix Guattari. J'ai une photo d'eux. Les voilà. Donc, Deleuze à gauche, Guattari à droite. C'est dans Mille Plateaux qui parle de la déterritorialisation. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à l'université de Vincennes dans les années 60. 70, pardon. Donc c'est quoi la déterritorialisation ? Eh bien, c'est pas seulement justement une extraction géographique d'un territoire, c'est aussi une décontextualisation. La phrase n'est pas d'eux, hein, elle est de moi, mais je voulais préciser ce concept. En fait, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est pas seulement, il n'a pas fait que se répandre, il n'a pas fait que passer d'une forêt à une autre forêt dans son expansion spatiale. Il est passé d'une forêt à une ville. C'est-à-dire qu'il a complètement... C'est la ville de Montpellier, hein, ici. Hein. Il a complètement changé de contexte, changé de paradigme, changé de type d'habitat. Il est passé d'un endroit où il piquait, où les femelles pondaient dans des coquilles d'escargots, hein, ou dans des feuilles retournées, à un endroit où les femelles la pondent, dans tout ce que l'humanité dans les villes fabrique de petits récipients, de petits creux qui sont partout, et y compris que l'architecture contemporaine ne fait que développer, hein, les petits trous qui permettent d'accueillir des eaux stagnantes. Il est passé d'un endroit où il piquait des singes originellement à un endroit où il pique maintenant que des hommes. Et puis surtout, il est passé d'une forêt tropicale à une zone tempérée, à une zone où il pouvait vivre tout le temps, à une zone où il ne peut pas vivre tout le temps. Et comment il a fait ? Et c'est ça l'incroyable plasticité et exceptionnalité de ce moustique, c'est qu'il a inventé en fait une modification interne, génétique, par une modification que les entomologistes appellent la diapause, qui fait qu'il envoie une information génétique à ses œufs, qui fait que tous les œufs qui sont pondus en ce moment, en septembre, comme les beaux jours vont cesser et qu'il ne pourra pas vivre cet hiver, eh bien, les œufs ont une information génétique qui fait qu'ils ne vont pas éclore, même s'il y a une mise en eau. Ils vont attendre le mois de mai. Et c'est ça l'incroyable adaptabilité et exceptionnalité de ce moustique, c'est que, un, il s'est anthropisé, mais surtout il s'est urbanisé, c'est-à-dire qu'il est arrivé, c'est là où il est le plus présent, parce que c'est là qu'il y a des petites collections d'eau, il est allé là où il y a des foyers urbains très importants. Alors quand vous avez... Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment il a fait pour se répandre aussi rapidement, parce que ça s'est fait rapidement. Parce que lui, le moustique, il vole sur... Il vole sur, dans toute sa vie, sur 30 jours, il va voler sur 500 mètres, 1 km, 2 km maximum. Or là, il a atteint tous les continents. Alors, on ne connaît pas bien cette histoire-là de son expansion. En fait, ce qu'on sait, c'est que, sans doute, ça a dû démarrer au XVIIe siècle. Il a suivi les hommes dans leur grand transport transocéanique. Il est parti d'Asie en montant sur les bateaux, tout simplement, hein. Les hommes avaient besoin d'eau sur le bateau, il y avait des tonneaux, donc il devait y avoir de l'eau qui stagnait, et il devait y avoir des œufs dedans. Et c'est comme ça qu'on pense qu'il est arrivé à Madagascar au XVIIe siècle à peu près. Et puis ensuite, on sait qu'il est arrivé au Japon au XIXe siècle, là déjà, Japon, diapause, c'est-à-dire que modification génétique pour pouvoir vivre au Japon. Et là, au Japon, juste après la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé... un endroit incroyable, il a trouvé des pneus. Des pneus qui étaient stockés au Japon. Et pour lui, c'est un endroit incroyable de développement, tout simplement parce que les pneus, bah, d'abord, premièrement, c'est sombre, et lui, il a besoin d'un endroit sombre pour pouvoir pondre toutes les femelles. Hein. Deuxièmement, le pneu, ça retient l'eau. Et en particulier, ces gros pneus-là, les pneus d'avion, les pneus de tracteur, les pneus de camion, qui sont... une fois qu'ils sont stockés dehors, très très souvent, qu'ils ne sont jamais retournés. Enfin, personne ne pense à retourner des pneus pour vider l'eau qu'il y a dedans. Donc, il y a toujours de l'eau. Donc, les femelles vont piquer à l'intérieur. Le niveau de l'eau augmente régulièrement en fonction de la pluie. Donc, ce sont des usines, à fabrication d'Albopictus. Donc, il s'est développé dans tous ces pneus qui étaient stockés pour du rechapage. Or, ces pneus ont fait l'objet d'un commerce international et ils ont été vendus aux États-Unis dans les années 70. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en 1972 aux États-Unis. Sous la forme d'œufs. Là, les pneus ont été stockés dehors. Il a plu dans les pneus. Donc, les œufs se sont mis à éclore, et donc Albopictus s'est répandu. Il est né, et il s'est répandu aux États-Unis. Et voici aujourd'hui la carte de répartition d'Albopictus aux États-Unis. Les pneus, ensuite, ont été rechappés dans des usines aux États-Unis. Puis, une fois qu'ils ont été rechappés, ils ont été restockés dehors. Là, tous les Albopictus qui étaient nés sont allés pondre dans ces nouveaux pneus, tout neufs. Et or, ces pneus ont fait l'objet d'un commerce international. Ils ont été vendus partout dans le monde parce qu'ils étaient rechappés. Ils ont été vendus en Amérique latine en 1986, en Afrique en 1989 et déjà dès 1979 en Europe par l'Albanie. Et c'est comme ça qu'il s'est répandu très très vite. Donc, quand vous avez un moustique, quand vous avez ces deux caractéristiques, le fait que ce soit un vecteur et le fait qu'il se déterritorialise, quand ces deux caractéristiques sont isolées l'une de l'autre, bon, ça peut ne pas être très grave. Mais si elles sont associées, là, selon le fameux principe de l'exponentialité des effets et des inconvénients cumulés, nous avons ceci, si on l'applique hein, aux moustiques et au territoire. Si vous avez un moustique non vecteur de maladie et pas de déterritorialisation, bien sûr, on n'a aucun problème, hein, parce qu'il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de déterritorialisation. Si vous avez un moustique non vecteur de maladie et une déterritorialisation, bah là, on n'a pas de problème non plus, puisqu'il n'est pas vecteur de maladie. Donc, aucun problème. En revanche, si on a un moustique vecteur de maladie et pas de déterritorialisation, on a un problème. parce qu'il est vecteur de maladie. Mais c'est un problème limité lié à ce territoire-là. Donc c'est un problème limité. Mais si on a un moustique vecteur de maladie et une déterritorialisation, eh bien là, l'humanité a un gros problème. Et ce gros problème est d'autant plus important que la déterritorialisation est en cours aujourd'hui. Elle ne cesse d'être croissante parce que, et aujourd'hui, alors là, pour le coup, c'est plus à cause des transports, c'est à cause du changement climatique, ce qui fait qu'il fait de plus en plus chaud en Europe occidentale et qu'avec, selon les différents scénarios de l'évolution du climat dans les 50 prochaines années, eh bien voici la carte de la présence du moustique dans les 50 prochaines années. On a trois scénarios différents. Dans les trois cas, en 2050, le moustique il est partout en France, il est en Allemagne, il est en Angleterre, sauf dans un des cas, il est en Pologne, etc. Donc ce sera ça, quoi. Parce que le changement climatique, lui, n'est pas arrêtable, donc sa progression au moustique non plus. Donc quand on a une déterritorialisation comme ceci, qui est progressive, eh bien là, le gros problème, et qui est inarrêtable surtout, le gros problème devient un très gros problème. Et quand... Parce que je n'ai pas parlé des maladies, mais il faut en parler, là. Parce que les deux virus qui sont transmis sont quand même très, très pathogènes. Hein. Le virus de la dengue, c'est 2,5 milliards de personnes qui sont touchées potentiellement dans les tropiques par cette maladie. C'est 50 millions de personnes qui tombent malades chaque année. C'est 500 000 hospitalisations et c'est 20 000 morts. Donc c'est pas rien. Hein. Bon, c'est une maladie qui se traduit par... Il y a des formes très, très sévères qu'on appelle la dengue hémorragique, des syndromes de choc. Et ça touche les 20 000 morts, c'est surtout des enfants qui sont les premières victimes de cette maladie-là. Ça se traduit par une fièvre très très importante et un alitement qui peut durer 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. C'est vraiment une fatigue généralisée, quoi. Et puis, c'est un virus qui vient se loger dans toutes les articulations, ce qui fait qu'on n'arrive plus à bouger. Voilà. Et le chikungunya, alors c'est moins pathogène, ça tue beaucoup moins, mais ça flambe. Hein, c'était l'épidémie qu'il y avait eu à La Réunion. Sur 900 000 personnes, 300 000 personnes ont attrapé le chikungunya. Donc c'est une maladie qui est apparue. Alors on l'a découvert très récemment, en fait, dans les années 50. Elle est apparue en Afrique australe, enfin dans l'est de l'Afrique australe, entre la Tanzanie et le Mozambique, dans un territoire où est parlée la langue Makonde. Et dans ce territoire-là, le chikungunya, c'est un mot de la langue Makonde. Ça veut dire l'homme qui marche courbé en avant, comme ça. Voilà, donc... c'est ça, le chikungunya. Là aussi, ça atteint les articulations, surtout les extrémités des membres, et une fièvre très, très importante. Et peu de morts. Les morts qu'il y a eu à La Réunion, c'était des morts, mais quand même. Hein, c'est surtout les personnes âgées, toutes celles qui ont des pathologies qui sont sous-jacentes, le chikungunya peut aller jusqu'à la mort dans ces cas-là. Voilà, donc en tous les cas, deux maladies pour la dengue, en tous les cas, très très pathogènes. Deuxièmement, deux maladies qui se présentent sous forme épidémique et endémique, et épidémique jusqu'en Europe maintenant à cause de ce moustique. Hein, il y a eu une épidémie de chikungunya en Italie il y a 4 ans, avec 300 personnes qui l'ont attrapé. J'ai oublié de le dire, mais on n'a pas de vaccin, hein, pour les deux virus. Il n'y a aucun vaccin. C'est-à-dire qu'ils sont à l'étude, mais on n'a pas de vaccin, c'est ça le problème. Pas de vaccin pour la. En plus, la dengue, c'est compliqué, il y a 4 virus, donc ça fait 4 vaccins. Et puis le chikungunya non plus. Et puis enfin, on pense que ce moustique n'est pas seulement responsable de la dengue et du chikungunya, on pense qu'il est aussi capable de transporter d'autres virus, comme le virus de la fièvre jaune, comme le virus de la fièvre de la vallée du Rift, le virus de l'encéphalite japonaise, le virus du Nil occidental, le virus de l'encéphalite de Saint-Louis et le virus de l'encéphalite équine de l'Est. Bon, c'est moins grave, hein, le dernier, c'est pour les chevaux, surtout. Donc, quand on a un virus aussi, enfin, et un moustique, et des virus aussi potentiellement dangereux, eh bien là, le très gros problème devient un vraiment très gros problème. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui urgence à arrêter ce moustique, parce qu'il fait peser un risque immense à l'humanité, parce que tout simplement, il y a un risque épidémique très très important, avec potentiellement avec la dengue des millions de morts. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, de nombreux États et de nombreux centres laboratoires de recherche, de nombreuses politiques publiques visent à essayer de contenir ce moustique, à essayer de l'arrêter, à essayer de faire en sorte qu'il ne menace pas les populations civiles. C'est d'autant plus important de comprendre comment on peut l'arrêter qu'il fait l'objet aujourd'hui d'études aussi par les militaires qui pensent à l'utiliser. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, que les militaires pensent à utiliser des moustiques. Ça s'est déjà fait avec un de ses cousins au moment de la guerre froide, où les Américains avaient échafaudé des plans avec Aedes aegypti, qu'un autre moustique qui transmet la fièvre jaune. Et puis, ils imaginaient de mettre des millions d'Aedes aegypti dans des avions et puis de lâcher les Aedes aegypti sur la Corée. Ça ne s'est pas fait, mais là, il y a des études déjà sur Aedes albopictus qui sont à l'étude. C'est d'autant plus dangereux avec Aedes albopictus, c'est que lui, pour le coup, il est déjà là dans les pays. Il est déjà en France. Donc un État qui voudrait, par exemple, attaquer la France et mettre la France au lit, par exemple, qui n'ait plus de combattants, c'est très simple, hein. C'est très très simple. Hein. Vous dites, vous prenez des ressortissants ou des mercenaires, vous les payez un tout petit peu, vous les mettez en état de virémie, c'est-à-dire vous leur inoculez le virus de la dengue ou du chikungunya, puis vous leur dites, allez dans le sud, allez marcher, allez prendre l'apéro à Montpellier. Non, mais je dis ça parce qu'il pique au moment de l'apéro, hein, entre 17h et 19h. Allez prendre l'apéro, et c'est comme ceci que l'épidémie peut se développer. Donc il faut l'arrêter, il faut absolument l'arrêter. Ce pourquoi il y a énormément, aujourd'hui, on le sait dans les laboratoires de recherche, si on veut avoir de l'argent pour son laboratoire, il faut dire qu'on travaille sur Aedes albopictus. Donc très très nombreuses personnes travaillent sur lui. Alors, quelles sont les solutions qu'on aurait aujourd'hui pour empêcher le développement de ces épidémies, pour empêcher le fait qu'il y ait des millions de morts à l'avenir qui meurent de la dengue ou du chikungunya? En fait, il faut distinguer deux cas, parce qu'en fonction des deux cas, les réponses sont différentes. Il faut distinguer les endroits où albopictus est déjà là et les endroits où albopictus n'est pas encore là. Parce qu'évidemment, en fonction de ces deux cas, les réponses sont totalement différentes. Parce que si albopictus n'est pas là, l'objectif des sociétés humaines, bien sûr, c'est de l'empêcher d'arriver. Et si albopictus est là, l'objectif des sociétés humaines, c'est de l'empêcher de piquer. Hein ? Or, ça n'a rien à voir. Donc on va étudier les deux cas l'un après l'autre et les deux hypothèses l'une après l'autre. Hypothèse 1, albopictus n'est pas là, donc l'objectif, c'est l'empêcher d'arriver. On l'a vu tout à l'heure, vous l'avez vu, comment albopictus arrive dans un territoire, il fait des grands bonds. Donc c'est simple, hein, la logique, elle est là. Albopictus n'est pas là, il faut l'empêcher d'arriver. Or, albopictus arrive en faisant des grands bonds, donc il faut s'attaquer aux grands bonds d'Albo. Donc voici le schéma d'un grand bond. Donc si vous êtes un territoire B et que vous ne voulez pas que albopictus vienne dans votre territoire, vous avez trois possibilités, on le voit très très bien sur ce document. Soit vous obligez, hein, ou ici, soit vous obligez le territoire A à contrôler, à empêcher ces moustiques de sortir. Ce qui est compliqué, hein, on voit mal la France dire aux États-Unis « Vous contrôlez tous vos albopictus de manière à ce qu'ils n'arrivent pas en France ». Impossible. Soit vous contrôlez le trajet. Là aussi, c'est difficile. On sait pas du tout dans les bateaux, les marchandises. C'est très difficile de contrôler toutes les marchandises qui arrivent dans un territoire. Alors, parfois les hommes aussi. Parfois, ils sont dans les cales. Alors les moustiques, a fortiori. Hein. Donc le plus simple, c'est de contrôler toutes les arrivées. Une fois que vous êtes, si vous êtes territoire B, de contrôler tous les points d'arrivée de marchandises qui pourraient contenir des albopictus. Et c'est ce que fait l'Union européenne, c'est ce que font la France aussi. C'est que à chaque fois qu'il y a par exemple une arrivée de pneus, eh bien c'est traité par une équipe qui vient ici envoyer un gaz de manière à un insecticide en fait et un larvicide afin de tuer l'ensemble des larves et aussi des insectes qui seraient déjà nés. Et regardez bien l'opérateur là, il va voilà, il se désintéresse complètement des pneus à un moment donné et il va mettre de l'insecticide dans la forêt. Parce que, en effet, il suppose que le moustique est déjà né, en fait. Hein, parce qu'en effet, ça va très très vite. Sans doute là venait-il de pleuvoir juste avant. Ça va très très vite. Or, il faut intervenir le plus rapidement possible quand le moustique arrive. Parce qu'on ne peut le traiter que dans des petites zones et que en cas de primo-infestation. Parce que si on ne le fait pas tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Ce moustique va chercher les petites collections d'eau. Il va aller en ville. Et donc, il va agrandir son territoire. À partir du moment où il agrandit son territoire, bien, déjà, premièrement, ces produits chimiques-là, hein, il faut le faire que sur des tout petits territoires parce que ce sont des produits très peu sélectifs. Hein, donc, ça tue pas que le moustique, ça tue plein d'autres animaux, et les abeilles, etc. Deuxièmement, il y a une résistance de ce moustique. Mais surtout, à ces produits-là, mais surtout, une fois qu'il arrive en ville, vous ne pouvez plus l'enlever. Parce qu'en ville, vous ne pouvez pas traiter une ville. Vous ne pouvez pas faire ça en ville. C'est pas possible. Sans parler de l'hostilité des gens, hein. Il y a des milliards de recoins, il y a des maisons, des jardins, des maisons. Enfin, vous pouvez pas, même en gazant la ville, vous ne pouvez pas atteindre tous les recoins et donc vous pourrez pas le tuer. Donc une fois qu'il est en ville, c'est fini. Là, il est à Montpellier, c'est fini. Montpellier, il y aura albopictus ad vitam aeternam, sauf si cette espèce meurt. D'où la nécessité d'agir rapidement et pas que sur les pneus, hein, parce qu'il vient pas qu'en pneus. Hein. Il vient aussi. Par exemple, c'est comme ça qu'il est arrivé aux Pays-Bas. Il est arrivé dans une plante aux Pays-Bas. C'est un marché en fait du Lucky Bamboo. C'est un bambou qui porte chance, que les Chinois vendent. Pour le coup, qui n'a pas du tout porté chance aux Pays-Bas. Donc, ça ressemble à ça, le Lucky Bamboo. Hein. Voilà. Et c'est un bambou qui est tout le temps dans l'eau. Et les œufs, ils sont collés là. Hein. Voilà. Ils sont collés sur la paroi ici. Voilà. Bon, ça, c'est une photo que j'ai. C'est pas un bon exemple, parce que c'est une photo que j'ai faite au Canada et pas du tout aux Pays-Bas. Alors qu'au Canada, il n'est pas du tout venu en bambou, il est venu en pneus. Mais je montre cette photo-là parce que là, on voit très très bien combien une épidémie peut se déclarer très très rapidement. Hein. Il suffit qu'il y ait un tournoi derrière, et là, il peut y avoir, si Albopictus a le virus, il peut y avoir très très rapidement une transmission. Bon, mais alors ça marche. Si on agit en primo-infestation, ça peut marcher, mais ça peut ne marcher que si on est sur un territoire insulaire. Parce que si on n'est pas sur un territoire insulaire, si on est sur un territoire avec une solution de continuité territoriale entre deux États, entre un État infesté et un État non infesté, eh bien là, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que le moustique n'a pas besoin de faire un grand bond pour aller de l'un à l'autre. Il peut faire ce qu'on appelle un petit bond. Et c'est précisément comme ça qu'il est arrivé en France. En France, il n'est pas arrivé en bateau des États-Unis. Il est arrivé par des petits bonds. Des petits bonds qui venaient d'où ? Qui venaient d'Italie. Et réellement des petits bonds. C'est-à-dire que quand on remarque comment il a progressé de l'Italie à la France, on s'aperçoit en France qu'on le trouve tâche par tâche, comme s'il avait bondi d'une tâche à l'autre. En fait, on sait aujourd'hui comment il a fait, parce que chacune des tâches correspond à des aires d'autoroute. En fait, il est rentré dans des voitures en Italie, tout simplement, parce que lui, la femelle, est dans une nécessité hein, de piquer pour avoir du sang, pour pouvoir pondre, se perpétuer, etc. Il rentre dans la voiture, le chauffeur prend l'autoroute, arrive en France, s'arrête à une station-service pour se désaltérer, prendre de l'essence, etc. Il ouvre la portière, le moustique sort, et l'aire d'autoroute. Le moustique va préparer ses œufs, l'aire d'autoroute est infestée. Et c'est comme ça qu'on l'a vu progresser d'aire d'autoroute en aire d'autoroute en France, remonter, par exemple, sur l'axe Paris, Marseille-Lyon-Paris, ben, il est remonté. On le voit d'aire d'autoroute en aire d'autoroute. Il est allé jusqu'à l'aire d'autoroute de Mâcon-la-Salle aujourd'hui. C'est-à-dire, à peu près, il a fait... le spécialiste français de ce moustique dit qu'il reste... il a fait la moitié du chemin jusqu'à Paris, et on pense que dans 4 ans, 4 ans et demi, il sera à Paris. Au rythme où il progresse, hein. Donc là, il est aujourd'hui là, hein, dans sa terre d'autoroute. Alors, la difficulté, une fois qu'il est là, la difficulté, ensuite, là, bien sûr, si on veut, là, il faut agir le plus rapidement possible. Il faut agir de manière à l'éradiquer de cette zone de primo-infestation. Sauf que pour agir, il faut savoir qu'il est là, donc il faut l'avoir vu. Or, la plupart du temps, le chauffeur qui s'arrête là, il ne sait même pas qu'il avait le moustique dans la voiture avec lui. Et le moustique, quand il va sortir, déjà, pour le voir, c'est pas facile. Et puis en plus, le moustique, lui, il va aller se cacher tout de suite, la femelle. Pas pour pas être vue, mais parce qu'elle, elle va se trouver un endroit sombre pour pouvoir se reposer pendant 48 heures pour pouvoir préparer ses œufs et pas être embêtée. Donc la seule chose qu'on peut voir pour savoir qu'il est là, c'est voir pas la femelle, parce qu'on va pas la trouver, mais de voir l'endroit où elle va pondre, c'est-à-dire trouver le gîte. Donc moi, j'ai travaillé avec une équipe, donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à Montpellier, une équipe de recherche, parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait un gîte d'Albopictus et à quoi ça ressemblait les larves. Donc voici un petit film que j'ai fait dans un laboratoire où vous allez voir les larves d'Albopictus. Faites pas attention, je n'avais pas prévu ce jour-là de filmer, donc je l'ai fait avec un mauvais appareil, donc là, l'image n'est pas très bonne, le son non plus. Mais ça permet quand même de visualiser quand même ce à quoi ressemblent les larves d'Albopictus.
Que tu vois sur les papiers, c'est des œufs, et là ils sont en train d'éclore. Et tu vois les larves là. Si tu viens te mettre là, tu vois les. Est-ce que tu les vois, les toutes petites blanches, ouais. Voilà, elles viennent d'éclore. Dans un premier temps, ensuite, quand on a. Tu vois des larves,
ouais.
Voilà. Et les petites boules noires, tu vois les petites boules noires,
ouais.
C'est les nymphes.
Ouais, des petites boules noires. Ouais. Dans 24 à 48 heures, ça va donner un adulte. Mais ça, le moustique que tu vois sur l'eau, c'est certainement qu'il vient d'émerger. Et là-bas, tu vois la quantité de larves au fond, là-bas.
Oh, putain de merde.
Tu sais, ils émergent de la nymphe, et puis bon, ils mettent un certain temps avant de décoller, et... Puis bon, ils sont bien sur l'eau, ils ont l'humidité, hein. Ça, c'est une image, parce que bon, faut connaître, mais ils ont les antennes plumeuses, donc c'est pas des femelles.
T'arrives à voir les antennes, là? Ouais. Ce qui est devant, là, t'arrives à voir qu'il y a des plumes sur les antennes.
Ouais, ouais. Parfait.
Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Alors, supposons que le moustique soit vu, que quelqu'un ait vu le gîte, donc on arrive à enlever le moustique de Mâcon-la-Salle, et on arrive en effet à éradiquer le moustique à Mâcon-la-Salle. Sauf que ça marche. C'est pas une réussite à 100%. Pourquoi c'est pas une réussite à 100%? Parce que toutes les voitures, et il y en a beaucoup, parce qu'il est, il est présent par millions en Italie, toutes les voitures, et puis maintenant dans le sud de la France, toutes les voitures ne sont absolument pas obligées de s'arrêter à l'aire de Mâcon-la-Salle. Donc il y a d'autres voitures qui vont aller ailleurs. Et même on peut se dire que les automobilistes ne sont pas du tout obligés de s'arrêter à une aire d'autoroute. Or, où vont-ils s'arrêter s'ils ont un albopictus? C'est très très important de le savoir, parce qu'en fonction de l'endroit où la voiture va s'arrêter, c'est l'endroit où il y aura un moustique. Et donc c'est l'endroit où potentiellement il va y avoir développement d'une aire d'infestation, d'une aire où on peut attraper la dengue et le chikungunya. Donc il faut absolument connaître à ces endroits-là. Quels endroits ça peut être? Supposons quelqu'un qui s'arrête dans aucune aire d'autoroute. Où va-t-il s'arrêter après? Il va s'arrêter au péage, forcément, pour pouvoir payer. Hein, donc là, le moustique peut sortir au péage. Ou bien il va s'arrêter, ou bien il ne va pas sortir parce qu'il fait trop froid, ou bien j'en sais rien, il y a une lecture optique maintenant et personne ne baisse la vitre. Donc le moustique est coincé dans la voiture. Donc le moustique va s'arrêter où alors après? Où est-ce qu'il va sortir? Bah là, tout dépend de la géographie individuelle, subjective du conducteur. Hein, il peut s'arrêter. Si le conducteur s'arrête, devant une boulangerie, donc l'aire d'infestation, ça va être devant la boulangerie. Hein, ou si le conducteur s'arrête, va directement chez lui, eh bien l'aire d'infestation, ça va être sa maison et la maison des voisins, etc. Et tout ce territoire-là. Hein, donc voici, je pourrais multiplier les exemples, hein, mais voici trois possibilités, on va dire, de localisation du moustique s'il ne s'est pas arrêté à une aire d'autoroute. Pourquoi je les prends en exemple? Parce que quelle est la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la probabilité pour que ces aires-là soient traitées préventivement de manière à ce que le moustique ne se développe pas. Le péage, on peut même le traiter préventivement à la limite, parce que tout simplement que le péage, on sait où il est. Mais la boulangerie, c'est quelle boulangerie? La maison du conducteur, c'est quelle maison de quel conducteur? On ne peut pas. Dans un cas, on peut traiter préventivement, mais dans les autres cas, on ne peut pas traiter. Ce qui fait que le moustique va forcément progresser. Ce qui fait que là, on est dans une problématique totalement différente. Il faudrait, si on ne veut pas qu'il progresse, il faudrait que toutes les voitures qui rentrent sur l'autoroute en Italie, par exemple, ou dans le sud de la France, on leur donne, comme on fait avec les avions en Afrique, on met un désinsectisateur dans la voiture, on désinsectise les voitures de manière à ce que le moustique soit pas, vous voyez, parte pas. C'est-à-dire qu'on est dans la problématique inverse du grand bond dans le petit bond. Le petit bond, il faut traiter non pas l'air d'arrivée, il faut traiter l'air de départ. Il faut empêcher que le moustique s'en aille. Et puis, il ne faut pas le faire que sur l'autoroute. Hein, parce que les chauffeurs ne sont pas du tout obligés de prendre tous l'autoroute. Hein. Ils peuvent prendre des nationales, des départementales, des routes cantonales, vicinales. Enfin, il y a plein de manières d'aller d'un territoire à l'autre. Donc, il faudrait, si on veut que le moustique ne progresse pas d'un territoire infesté à un territoire non infesté, il faudrait mettre des infrastructures de contrôle hein, sur toutes les routes qui partent du territoire infesté vers le territoire non infesté, de manière à l'arrêter. Hein, ce qui est totalement inimaginable. Ou alors dans un état, mais même, c'est totalement imaginable de contrôler tous les axes, de contrôler absolument toute l'immigration de population. Et puis en plus, ça ne servira à rien. Mais ça ne servirait strictement à rien, parce que le moustique, il n'a pas, en plus pour progresser, il n'a pas forcément besoin de prendre la voiture. Hein. Parce que lui, je vous l'ai dit, il avance, il fait... La preuve, c'est qu'on l'a retrouvé en face, là. On l'a retrouvé à l'aire d'autoroute en face, qui s'appelle Mâcon-Saint-Albin. On l'a retrouvé ici. Ici, Mâcon-Saint-Albin. Or, là, il n'est pas allé en voiture, hein, c'est pas possible. Hein, parce que là, les voitures, elles viennent du nord. Il n'y a pas de moustique au nord. Bon, ou alors un moustique très vicieux qui serait rentré à Mâcon-Lassalle dans la voiture, descendu au péage, repris une autre voiture, voilà. Mais à part ça, mais le plus simple, c'est qu'il est en face, il a traversé, c'est super simple. Puis en plus, là, pour le coup, il a même pas le risque de se prendre un... C'est même pas dangereux, il peut même pas se prendre un pare-brise, il y a une passerelle derrière, s'il veut, là. Donc il y est allé tout seul, bien sûr. Ce qui fait qu'on ne peut pas l'arrêter, parce qu'il progresse tout seul. C'est ce que les géographes appellent la progression en tache d'huile. Voilà, c'est une progression de point en point. C'est inarrêtable, inexorable. C'est une technique militaire, la tache d'huile, en fait. C'est une technique qui a été définie au XIXe siècle par le général Gallieni dans sa conquête coloniale de Madagascar. J'ai une photo. Il n'y a pas de doute, hein, c'est lui, hein, Gallieni. Hein, voilà. Et donc, c'est une technique militaire qui permet de progresser. Donc, la tache d'huile, voilà, il l'a décrit dans ses lettres de Madagascar. C'est ça, la tache d'huile. C'est progresser constamment vers la périphérie en tressant des liens en contact intime avec les populations. Voilà, c'est exactement ce que fait Albopictus. Et pour le coup, ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est qu'il était lui aussi à Madagascar à cette époque-là. Et il appliquait exactement la même méthode que Gallieni. Sans qu'aucun des deux le sache. Voilà. Ce qui fait que voilà la tache d'huile, hein, la voilà en France, hein. C'est inexorable. Hein. 2005, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. C'est-à-dire que sa progression est inarrêtable. Et dans la tache d'huile, il continue à faire des bons. Voilà. Ce qui fait que si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout territoire non infesté qui jouxte, hein, un territoire infesté, eh bien c'est tout simplement toujours un territoire en voie d'infestation. Pour le dire encore plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Albopictus n'est pas là, c'est qu'il va bientôt arriver. Voilà. Donc l'arrêter, eh bien l'arrêter, c'est totalement impossible. J'ai répondu à ma première hypothèse. On ne peut pas, et c'est ça, c'est là où il pose vraiment problème, ce moustique, c'est qu'on ne peut pas empêcher sa progression. C'est totalement impossible. Avant de passer à la deuxième hypothèse que je vais traiter maintenant, je voudrais juste faire prenez ça comme un petit témoignage personnel, un état des lieux que j'avais envie de faire sur la géographie de l'infestation aujourd'hui en France, la géographie des aires d'autoroute infestées et celles qui ne le sont pas. Donc prenez ça comme une géographie de l'instant, parce que c'est une géographie mouvante, hein, elle ne sera pas valable l'année prochaine, elle n'était pas non plus l'année précédente. Voilà, donc vous allez voir une série d'aires d'autoroute infestées, puis celles qui ne le sont pas. Je suis parti de Marseille jusqu'à Paris. Il y a une musique qui accompagne ceci, que j'aime bien, que je trouvais que c'était l'occasion de la mettre. C'est, même si ce n'est pas du tout le même animal, c'est le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Voilà. Donc, on va partir du principe que le moustique est là, hein, puisque s'il n'est pas là, il va bientôt arriver. Et donc là, on est dans une seule problématique, c'est ne pas se faire piquer. Donc, je voici un tableau qui va présenter toutes les hypothèses possibles. Il y en a trois, en fait. Première hypothèse, si on veut ne pas se faire piquer, l'hypothèse la plus simple, hein, qui paraît sans doute être la plus simple, c'est de tuer le moustique. Alors, c'est celle que nous allons voir tout de suite. Alors, il y a trois manières de tuer un moustique. Soit la méthode physique, soit la méthode chimique, soit la méthode biologique. Donc la méthode physique, c'est la méthode mécanique, hein, tout simplement, qui, avec une tapette, hein, ou tout autre instrument, hein, y a des raquettes électriques à Taïwan, enfin il y a plein de trucs qui permettent de tuer mécaniquement le moustique. Alors le problème de l'action mécanique contre le moustique, c'est qu'elle est, c'est sa particularité, elle est spatialement différentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut le tuer qu'autour de soi, on ne peut pas le tuer dans un grand espace. C'est un des... Voici la carte qui présente les endroits où on peut tuer le moustique et les endroits où on ne peut pas tuer le moustique. C'est une des limites de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité ne sait pas attraper le moustique tigre. Enfin, n'importe quel autre moustique, d'ailleurs, l'humanité ne sait pas, c'est un des seuils infranchissables de l'humanité. Si elle le savait, il n'y aurait pas de problème, je ne serais pas du tout en train de faire cette conférence et on saurait tuer tous les moustiques, ce qu'on ne sait pas faire. Ce qui fait que l'élimination physique, elle est forcément tout le temps... ce qui fait que si tous les moustiques qui sont dans cet espace rouge, forcément, à un moment donné, puisque eux, ils sont dans un souci de perpétuation de l'espèce, ils vont retourner dans l'espace dans lequel ils ont été, duquel ils ont été, pour certains, pour leurs cousins, ont été tués. Ce qui fait que, c'est ce que les géographes appellent l'effet push and pull, hein, c'est-à-dire qu'il est poussé d'un endroit, il est attiré vers un autre endroit. Ce qui fait que quoi ? Ce qui fait que quoi ? Ben que c'est forcément tout le temps voué à l'échec, vous pouvez tout le temps tuer autant de moustiques que vous voulez, c'est à continuer en permanence, parce que de toute façon, ils viendront toujours. Donc c'est une activité qui ne permet pas de tuer les moustiques, de les éliminer entièrement en tous les cas. Deuxième possibilité, l'élimination chimique, je ne vais pas en parler, on l'a vu tout à l'heure, c'est les gaz hein, qu'on utilise. Je vous l'ai dit, on peut le faire que sur un tout petit territoire, on ne peut pas le faire dès qu'il est en ville, on ne peut pas gazer une ville, donc on n'en parle même pas. Troisième possibilité, biologique. Alors là, c'est une piste de recherche, c'est à l'étude, dans des laboratoires, on y arrive, on essaye de... C'est pour ça donc j'ai mis un petit laboratoire ici, que vous voyez ici. C'est le seul endroit où ça marche. On essaye d'inoculer une maladie à ce moustique de manière à le tuer. Sinon, on n'arrive pas, pour l'instant, à étendre cette possibilité à un grand territoire. Donc l'éliminer, le tuer, ben, on ne peut pas. Deuxième possibilité, faire en sorte... alors je vais l'évoquer, cette possibilité, même si je vais passer très très vite, faire en sorte de ne pas donner envie à l'albopictus de venir nous piquer. C'est-à-dire que le moustique arrive, et puis finalement, il ne vient pas. Alors, à quoi je fais allusion là ? Je fais allusion là à toutes les méthodes comportementales en fait qui visent à faire en sorte que le moustique ne vienne pas nous piquer. Donc il y en a des centaines sur Internet, enfin et puis même des recettes de grand-mère, etc. J'en ai pris quelques-unes ici, mais c'est vraiment non exhaustif. Toutes les méthodes qui permettent d'éviter de se faire piquer par un moustique. Bon. L'inconvénient de ces méthodes, c'est que certaines marchent, mais elles ne marchent jamais à 100%. Juste pour en prendre un exemple, une étude sérieuse du CNRS qui s'est faite sur les buveurs de bière. En fait, qu'est-ce qui a été fait ? C'était en Afrique que cette étude a été faite. On a mis un individu buveur d'eau dans une salle, un individu buveur de bière dans une autre salle. Puis il y avait deux couloirs d'accès, et puis une salle où il y avait plein de moustiques. Et le moustique avait le choix. Et les moustiques avaient le choix, et voici les résultats. Vous voyez que le buveur d'eau, le buveur de bière, après qu'il ait bu de la bière, attire davantage de moustiques qu'avant qu'il ait bu de la bière. Mais regardez, le buveur d'eau, lui, avant qu'il ait bu de l'eau, après qu'il ait bu de l'eau, attire tout autant, à peu près autant de moustiques qu'avant qu'il ait bu de l'eau. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en effet, si vous buvez de la bière, vous avez plus de chances de vous faire piquer. Mais si vous buvez de l'eau, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous faire piquer, parce qu'il vient quand même. Donc, premièrement, ce n'est pas vraiment efficace. Et puis surtout, l'inconvénient de ces méthodes, c'est que pour toutes, hein, toutes, c'est qu'elles supposent, ces méthodes comportementales, elles supposent qu'une partie de l'humanité n'adopte pas le même comportement que vous. Pour que ça marche, il faut qu'un buveur d'eau soit à côté d'un buveur de bière. Parce que si on est entre deux buveurs d'eau, on est tous potentiellement piqués. Il faut qu'il y en ait un qui attire plus. Donc ça nous met, hein, ces méthodes-là, elles nous mettent dans un rapport à l'altérité, un rapport à autrui qui est terrible. Donc ça ne peut pas être des méthodes qui sont pour l'humanité. Donc n'en parlons même plus, elles sont toutes de cet acabit-là. Donc troisième possibilité et dernière possibilité, eh bien, c'est la seule qui reste, c'est faire mettre un écran entre lui et nous, parce qu'il va arriver. Donc c'est faire en sorte que par un écran, il ne puisse pas nous piquer. Alors là, j'ai fait exprès deux cas, parce que les hommes et les femmes vivent dans deux endroits différents. On vit à l'extérieur, on a une partie de notre vie qui est à l'extérieur, puis une partie de notre vie qui est à l'intérieur des bâtiments. Et évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc prenons d'abord à l'intérieur des bâtiments. Comment protéger un bâtiment ? Bon, bah là, c'est la classique moustiquaire qu'il faut mettre, c'est la seule chose à faire, c'est, qu'on peut mettre aux fenêtres et aux portes. Seulement, on le sait tous, les moustiquaires, ça marche, mais ça ne marche pas jamais à 100%. Voilà, tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut rentrer dans la maison et qu'il peut rentrer avec vous, tout simplement, ou que la moustiquaire s'abîme. On le sait bien, il y a eu une étude en Afrique sur un autre moustique, l'anophèle, qui transmet le paludisme. Et puis bon, donc lui, il pique surtout la nuit, l'anophèle, enfin elle plutôt, elle pique la nuit. Donc les moustiquaires, ce n'est pas des moustiquaires aux portes et aux fenêtres, c'est des moustiquaires sur le lit. Et les scientifiques, tous les matins, récoltent dans la moustiquaire qui est sur le lit, j'ai fait un dessin là, ce qu'on appelle la FRM, c'est-à-dire la faune résiduelle matinale. C'est quoi ? C'est des moustiques qui sont dans la moustiquaire. Alors comment ils ont fait ? Ben, forcément, à un moment donné, il a fallu rentrer sous la moustiquaire, ou bien il y a un petit trou. Le moustique le trouve. Il est tellement dans un souci de se perpétuer qu'il le trouve, le trou. Puis après, la femelle, puis après, en revanche, pour sortir, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas, d'abord elles sont grosses, et puis elles ne le trouvent plus, elles sont fatiguées, elles n'arrivent plus à trouver le trou, et elles sont prises au piège. Mais ça, la FRM, c'est la preuve que la moustiquaire n'est pas efficace. Donc le seul moyen... Si on veut protéger un bâtiment, c'est de faire ce qu'ils ont fait à Montpellier, dans le laboratoire où vous m'avez vu tout à l'heure, là, en vidéo. Ils ont fait un laboratoire enterré, pas de fenêtre. Il y a un sas d'entrée et de sortie, avec une double chambre. Alors, eux, ils sont dans une problématique inverse, parce que eux, à Montpellier, le moustique, ils l'ont chez eux. Ils ne voulaient pas qu'il sorte, pour pas qu'il aille dans Montpellier. Bon, il se trouve qu'il est déjà dans Montpellier, mais il n'est pas venu d'ici. Il est venu par l'autoroute, etc. Donc, il y a deux sas. Un sas avec une température très très basse, qui fait que normalement, à vers 10 degrés, vous le traversez, et normalement, il meurt à cet endroit-là. Et puis si jamais il ne meurt pas, il y a un second sas avec un vent très très fort, qui fait que s'il est accroché à vos vêtements, il va être aspiré à ce moment-là. J'ai fait un petit film dans le sas, là. Je vous le montre juste quelques secondes, et puis je reviens. Là, on voit bien, l'inconvénient. Donc ça marche, ça marche très bien. Le problème, c'est que qui peut s'équiper d'un tel sas ? Peut-être à l'avenir, peut-être des administrations, des grands bâtiments, mais sans doute pas des particuliers. Donc parce que ça coûte excessivement cher. Enfin, c'est impossible que chaque maison s'équipe d'un sas pareil. Ce qui veut dire que 99,99% de l'humanité n'aura pas de sas. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le moustique sera dans la maison. Et donc, dans ce cas-là, la problématique, on le voit bien, de l'intérieur et de l'extérieur, elle est caduque. C'est-à-dire que c'est la même. C'est-à-dire que si on veut ne pas se faire piquer, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Donc là, si on va jusqu'au bout du raisonnement, la seule manière de ne pas du tout se faire piquer, c'est la méthode de l'apiculteur. C'est la combinaison intégrale. Il faut tout protéger. Il faut protéger la tête aussi, il faut mettre une moustiquaire de tête. Parce que sinon, si vous n'avez pas la moustiquaire de tête, vous faites piquer au niveau de la tête. Voilà. Et puis, il faut protéger absolument les mains. Voilà. C'est la seule solution pour... Si on veut éviter la piqûre et si on veut éviter la transmission de ces maladies, c'est la seule solution. Alors ça, il y a des versions pour enfants. Ça se trouve très facilement. Et après, on peut tout imaginer. On peut imaginer... après, on peut se promener en famille facilement, etc. On peut aussi prendre les transports en commun, etc. etc. On peut prendre du bon temps. On peut absolument tout faire de cette manière-là. Voilà. C'est la seule manière d'empêcher aujourd'hui la piqûre par Albopictus et donc le développement de la dengue. Donc c'est ça la solution. C'est l'enveloppe de protection corporelle intégrale. Voilà. Je pourrais m'arrêter là. Bon, on voit bien que ce n'est pas une solution souhaitable pour l'avenir. Je ne vais pas dire pourquoi, comme les raisons me paraissent tellement évidentes. Enfin, puis il y en a tellement. Juste peut-être prendre une raison complètement anecdotique. C'est mon fils que vous voyez là au premier plan. Là. Et quand on a fait la photo, voici ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc voilà, et en effet, c'est très dur de respirer, donc c'est absolument pas imaginable de vivre comme ceci. Alors j'ai essayé d'imaginer, moi, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de pas être piqué et en même temps de vivre sans cette combinaison? Est-ce que c'est possible? J'ai essayé d'imaginer des possibilités, j'en ai identifié 5 en fait, qui sont, on peut dire aujourd'hui, des pistes de recherche. Qui ne sont pas encore opérationnelles. Je vais vous les citer très rapidement, ces 5 possibilités. Certaines, vous le verrez, me paraissent fallacieuses, mais je les cite quand même parce qu'elles ont été adoptées dans certains endroits. Donc voici les 5 possibilités aujourd'hui d'éviter à la fois la piqûre et à la fois l'enveloppe de protection corporelle intégrale, qui sont donc des pistes d'avenir selon moi. Les voici, on va les détailler les unes après les autres, les citer rapidement. Donc vous avez la fuite vers l'épaule. La fuite vers l'épaule, c'est simple, hein, c'est considérer que en fait, le monde du moustique détermine un monde malade et que si on ne veut pas être piqué, bah, il faut partir de ce monde malade. Donc il faut aller habiter vers les extrémités du monde. Évidemment, c'est une solution qui n'est pas valable pour toute l'humanité puisqu'on peut, on peut pas imaginer 4 milliards d'individus qui habitent dans cette zone aller vivre dans les marges polaires arctiques et antarctiques du monde. Il n'y a pas assez de place. Et puis deuxièmement, il n'y a pas assez de ressources qui nous permettraient de vivre à cet endroit-là. Donc c'est une solution, mais une solution que pour ceux qui pourraient peut-être, qui auraient les moyens d'aller vivre dans des endroits pareils. Deuxième possibilité, la méthode de Gréou. Donc c'est une méthode qui a été adoptée à Gréou, en France, Gréou-les-Bains. C'est une petite ville du sud de la France. La voici. Donc c'est une méthode. Donc le moustique est arrivé l'été dernier. Donc j'y suis allé à Gréou-les-Bains parce que je faisais une enquête sur le moustique. Et donc la méthode qui a été appliquée à Gréou-les-Bains, c'est une méthode qui vise à nier la réalité. C'est-à-dire que j'ai rencontré les responsables de la ville. Je leur ai dit que je faisais une enquête sur le moustique, sur Albopictus. Et ils m'ont dit, surtout, on vous laisse faire, mais surtout, vous n'en parlez pas. Vous dites que vous enquêtez sur des guêpes, etc. Alors pourquoi ? C'est une ville thermale. Il y a énormément de personnes âgées. Et si jamais ça devait se savoir, comme il y a un risque très important avec le chikungunya, sans doute que les personnes... Et c'est ça la crainte, c'est que les personnes âgées fuient Gréou-les-Bains. Et ce serait bien sûr la ruine économique de cette ville. Donc cette méthode de Gréou-les-Bains ne marche que tant qu'on ne sait pas qu'il est arrivé à Gréou-les-Bains, que tant que personne ne le sait. Hein. Voilà. Troisième méthode, la méthode du mâle stérile. Alors ça, c'est une vraie méthode scientifique qui vise à stériliser des mâles par million dans des usines en Allemagne. Ça se fait surtout en Allemagne. On les stérilise et puis ensuite on les met dans des avions. Puis ensuite on les lâche sur un territoire et ces mâles stériles vont voir les femelles, ont des rapports sexuels avec les femelles et de là naissent des œufs qui vont jamais éclore. Alors ça marche, mais ça marche que sur les îles. Ça marche pas sur les territoires non insulaires. Donc ça pourrait pas marcher en France, etc. Pourquoi ? Parce que si on le faisait sur un territoire non insulaire, déjà on ne sait pas le faire sur une grande surface, et puis dès que le territoire est non insulaire, eh bien, les mâles non stériles du territoire d'à côté vont venir. Enfin, voilà, ils se déplacent tout seuls, hein, le moustique, donc ça va se mélanger. Et comme le mâle non stérile est beaucoup plus rapide et beaucoup plus véloce que le mâle stérile, eh bien, il arrive bien avant le mâle stérile à la femelle, et puis les œufs finissent par être des œufs valables, et les mâles stériles finissent par disparaître. Donc ça ne marche pas encore, mais c'est quand même une piste. Hein. Troisième possibilité, quatrième possibilité, c'est la politique de la guerre des creux. C'est un peu comme le mâle stérile, c'est-à-dire c'est se dire, c'est la même philosophie au départ, c'est se dire en fait, pour faire disparaître une espèce qu'on ne sait pas tuer, il faut empêcher la reproduction des individus de cette espèce. Or, pour sa reproduction, Aedes albopictus a besoin obligatoirement d'une petite collection d'eau stagnante, donc il faut éliminer les petites collections d'eau stagnante. Or, les petites collections d'eau stagnante se forment dans des petits creux, donc il faut éliminer tous les petits creux d'eau stagnante. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas de vaccin, bah, tu renverses les petits creux, ou bien tu vides les petits creux, tu pompes les petits creux, tu retournes les petits creux, tu bouches les petits creux, tu ramasses les petits creux, tu aplatis les petits creux, tu étires les petits creux, tu nettoies les petits creux, tu écrases les petits creux, tu détruis les petits creux, tu fais ce que tu veux, mais tu enlèves les petits creux. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que tu fais ceci. C'est la seule manière hein, de vider les creux, d'empêcher les épidémies. Alors, c'est la seule solution qu'on aurait pour l'empêcher de trouver des gîtes pour pondre. Alors évidemment, c'est compliqué, parce que des creux, il y en a des milliards dans l'humanité. Hein, si je reprends la photo de tout à l'heure, le monde, enfin la forêt, ce n'est qu'un enfin le monde est creux ici. Hein, tout est creux. Enfin, la surface plane n'existe pas dans la nature. Hein. Donc il n'y a que des creux ici, donc impossible de lutter. Puis bon, il y a peu d'hommes, donc on ne va pas essayer de l'enlever d'ici. Et puis en ville, je vous le disais tout à l'heure, l'homme n'a fait que fabriquer des creux. Et même là, on le voit bien, même quand il ne le cherche pas, le M de Montpellier, c'est un creux. Hein. Il y a de l'eau qui snague à l'intérieur et vous avez là des larves. Et puis l'homme n'a pas fait que construire des villes et construire des petits creux. L'homme a aussi répandu tous ses creux à lui sur ceux de la nature en créant des véritables champs de creux. Donc là, c'est totalement impossible. Alors, est-ce que c'est totalement impossible ? Non. Est-ce qu'il n'y a aucune piste ? Ben, si, il y en a des pistes. La seule piste qu'il y aurait, par exemple, par rapport à ce champ-là, la seule piste, ce serait d'attribuer une valeur au devenir non-creux de ce creux plus importante qu'au creux lui-même. C'est-à-dire d'attribuer, puisque là, ce sont des pneus, une valeur au devenir non-pneu du pneu plus importante que la valeur du pneu actuel. Si on avait ça, eh bien, personne n'irait abandonner des pneus. Tout le monde les amènerait pour que, dans des usines de transformation pour qu'ils gagnent en valeur. Hein, de manière plus générale, c'est ça qu'il faudrait faire. Hein, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est que la valeur d'un creux ou de toute activité humaine doit moins dépendre de son utilité, de sa rentabilité économique que de ses effets sur les sociétés humaines et sur le globe terrestre. Voilà. Si on fait ça, bon, ce que l'humanité n'a pas encore réussi à faire, eh bien on peut lutter contre les creux. Et il y a plein de pistes possibles. Il y a plein de pistes. En voilà une de pistes. Bon, ça, c'est mon fils. Mais ça, c'est du pneu, ça. Ça, c'est du pneu. C'est des pneus concassés. Voilà, ça c'est. Voilà. Donc si on fait plus, par exemple, si on fait plus d'aires de jeu, ben, y a moins de dingues. Voilà, c'est une des pistes. On peut multiplier ce genre de pistes. Voilà. J'ai pas dit il y a plus de dingues, hein. J'ai juste dit il y a moins de dingues. Parce que vous le voyez là, il y a des arbres, donc les feuilles tombent, donc vous avez des creux, donc vous pouvez avoir là potentiellement encore des moustiques. Si on veut vraiment plus de moustiques en ville, il faudrait enlever la nature de la ville. Complètement. Ce qui est un peu compliqué. Enfin, dans ce cas-là, on se demande ce qui est souhaitable. Hein. Voilà. Voilà pour cette possibilité. En tous les cas, c'est une possibilité d'avenir. Dernière possibilité, puis je vais m'arrêter là. La philosophie du plouf-plouf. Bah là, c'est plouf-plouf. Hein. Plouf-plouf, ça sera à toi qui sera piqué. Hein. C'est se dire que perso, on va peut-être passer entre les gouttes, que c'est quelqu'un d'autre qui se fera piquer. C'est se dire aussi que la vie, c'est tenter sa chance. C'est aussi vivre, c'est risquer sa peau. C'est ça. Voilà. Si vous avez d'autres solutions ou d'autres possibilités, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous laisse mes coordonnées. Voilà, je vous remercie. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.